Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France. Un PSG qui sera en mode survie demain soir en Ligue des Champions à Salzbourg. Un PSG qui va devoir briser le syndrome de l'inefficacité offensive. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Ben Sadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter.
Bonsoir à tous.
Salut Jonathan. Saïd Hamda, journaliste sportif, et là également.
Bonsoir.
Salut Saïd, on y va pour le sommaire et ce match nul tout d'abord, 0-0 face à Auxerre, pas de but. Et si le mal était un petit peu plus profond qu'un simple problème d'efficacité offensive au PSG, c'est la question que l'on va se poser. Salzbourg, PSG, J-1, victoire impérative, mais avec quelle équipe? Qui pour remplacer Ousmane Dembélé et quel gardien dans les buts parisiens? Et puis on reparlera de Kylian Mbappé. Il a brisé le silence hier pour la première fois depuis son départ au Real. Vos réactions, messieurs, aux vérités de Kylian Mbappé sur le PSG. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport. Cop Paris, c'est parti. Auxerre PSG, messieurs, c'était vendredi soir, le match avant la Ligue des Champions, toujours un contexte un petit peu particulier. On va revoir les images de ce match vendredi soir à l'Abbé Deschamps avec un MVP, comme on dit en NBA, Donovan Léon, le gardien auxerrois, héroïque avec ses 11 arrêts. On va en revoir quelques-uns, alors certains très impressionnants, d'autres qui doivent aussi à la maladresse parisienne. Score final 0-0 après le match nul, un partout face à Nantes. Jonathan, Saïd, le syndrome de l'inertie offensive, de l'inefficacité, c'est aussi en Ligue 1 maintenant.
C'est aussi en Ligue 1, mais ça s'explique assez facilement. C'est qu'on a un problème de profil, il y a un problème de cohérence de profil dans l'équipe, et surtout aussi un problème tactique. C'est-à-dire que Luis Enrique, il veut proposer un jeu de possession, oui. Et pourquoi pas. Mais c'est difficile de proposer un jeu de possession quand tu as des joueurs de transition. Ouais. Quand tu as Dembélé, Barcola, qui eux ne veulent pas toucher la balle en étant arrêtés, qui veulent être lancés, et que le coach donne des consignes différentes, c'est très compliqué. Et je parlais des profils manquants. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, bah, il manque le profil d'un buteur. Ouais. Il manque le profil d'un taulier au milieu de terrain. Il manque le profil d'un gardien qui sécurise l'équipe, qui donne confiance à tout le monde. Là, aujourd'hui, le gardien, un coup, c'est Safonov, un coup, c'est Donnarumma. Et quand tu sais que le poste de gardien qui est psychologique, hyper important, et que ça, c'est pas fiable, ça peut pas fonctionner.
Un PSG, est-ce que c'est un PSG dans la lignée de ses dernières sorties, un but sur les trois derniers matchs, qui plus est marqué par un défenseur? Si on regarde les stats, sont quasiment les mêmes que face à Nantes.
Jonathan. Trois derniers matchs ou trois derniers mois?
Parce que
c'est ça aussi, parce que en fait ce qu'on vit là face à Auxerre, face à Nantes, ou encore même, je me souviens aussi, c'était pareil contre Lens ou Marseille en deuxième mi-temps, c'est que le Paris Saint-Germain, qui était plutôt efficace en début de saison, voyait
il y avait des petites alertes avec le fait que le PSG baissait de un petit peu de pied, et ne tuait pas les matchs.
Encore que quand même il y avait quand même une régularité. Je me souviens du match contre Lille où il marque quand même trois buts, le début de saison et jusqu'à à peu près septembre octobre, Paris fait vraiment le taf en Ligue 1 et surtout est assez efficace, et on se disait presque c'est incompréhensible, parce qu'un PSG en Ligue 1 qui est efficace et qui marque, et dès qu'il arrive en Ligue des Champions il n'arrive plus à mettre un but. Bon, là au moins il y a une régularité, c'est bien. Ils sont inefficaces en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions,
on espère un petit peu moins. Voilà. Est-ce que ça peut devenir inquiétant à terme, ça, pour la Ligue? On va parler de la Ligue des Champions derrière. L'OM et Monaco sont revenus à 5 points, le PSG a perdu 2 points ce week-end. Terme, sur la durée.
Inquiétant, ça dépend ce qu'on entend par inquiétant. Si on parle simplement du contenu, oui, c'est inquiétant. Si on parle de la course au titre, pour l'instant, moi, je m'alarme pas. Mais dans cette équipe, il manque quelque chose qui est essentiel dans une équipe de foot. Il manque de l'expérience. Au milieu de terrain, il faut qu'il y ait un joueur, comme je vais paraphraser le grand Claude Makélélé, il faut qu'il y ait un joueur qu'on dribble avec respect. Il faut quelqu'un qui sache bouger ses coéquipiers. Pareil en attaque, il faut un leader qui fasse le pressing, qui offensivement, quand il en a une, marque pour dire aux autres, voilà, il nous en faut pas 50. Il faut qu'en défense aussi, il y a quelqu'un qui rassure les autres. Au PSG, il y a un énorme déficit d'expérience. Si on fait le point aujourd'hui, quels sont les joueurs les plus expérimentés au PSG, qui ont un CV, qui ont un background, qui ont une histoire dans le football?
Hakimi.
Hakimi est un des joueurs qui a le plus gros background, plus gros CV dans cette équipe, et il n'a que 26 ans. Il y a Donnarumma, pareil, qui a 25-26 ans. Il y a Marquinhos qui est là au club depuis tout le temps. Et après, il n'y a plus personne. On pourrait éventuellement mettre Dembélé parce qu'il a fait 5 ans au Barça. Mais dans cette équipe, il n'y a pas de background, il n'y a pas de CV. C'est pas normal.
Joe, tu parlais de Lucas Hernandez qui revient demain dans le groupe à Salzbourg.
Je partage 100% ce constat, mais est-ce que c'est ça qui explique l'inefficacité devant le but? Honnêtement, parce que.
On va écouter Warren Zaïre-Emery. Il ne va pas beaucoup nous avancer parce qu'il n'a pas trop d'explications. On en parle juste après.
Franchement, je saurais pas vous dire. Au début de saison, on marquait, c'est un moment un peu plus compliqué qu'au début de saison. Je saurais pas vous dire pourquoi on marque pas. Un petit manque dans le dernier geste ou un manque de concentration, je sais pas, mais des fois c'est comme ça.
Bon, il n'y a pas trop de réponses, c'est presque devenu irrationnel.
Non, mais parce que
il
ça,
a
parce
18
que,
ans, en fait... il n'en sait rien, il découvre le monde pro, même s'il est très précoce.
Non, mais personne n'a de réponse.
Non, mais parce que,
en tout cas,
non, parce que les équipes. Marcola aujourd'hui en conf, qui n'est pas beaucoup plus âgé.
Bah, c'est ça.
Insister. Juste, retour de Gonzalo Ramos. On attendait que ce soit presque le sauveur, le Messi. Il y a eu deux belles occasions, on va les revoir vendredi à la Baie des Champs. Le PSG joue de nouveau avec un numéro 9, mais ne marque pas. Pour autant, bon déjà, il faut être indulgent avec lui, Gonzalo Ramos.
Il faut être indulgent, mais en vrai, c'est de notre faute. À un moment donné, quand on attend Gonzalo Ramos, même s'il a du potentiel, etc., comme étant l'élu, le sauveur, c'est quand même que le projet il est quand même descendu bien bas. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, bien sûr que les joueurs d'expérience, ça fait la différence parce qu'au début de saison, tout se passait bien. Mais quand le pied baisse un petit peu, c'est le joueur d'expérience qui permet de maintenir le cap, qui permet au bateau de ne pas tanguer. Et aujourd'hui, on ne les a pas, ces joueurs-là. Et il faut une ossature, une colonne vertébrale à tous les postes. Un en attaque, un au milieu de terrain, un en défense, un en gardien. Et quand on aura ça, je pense que ces coups de moula seront moins fréquents. Ils existeront toujours dans le foot, mais seront moins fréquents.
Ce ne sera pas forcément au mercato d'hiver, si l'on en croit les... Juste pour revenir sur Gonzalo Ramos, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu trompé de débat, nous aussi, du numéro 9, c'est pas un petit peu plus large que ça le problème de l'inefficacité offensive, Diop?
Oui, je pense que ça manque quand même de concurrence à Barcola. Ça manque, encore une fois, je pense que c'est important d'avoir des marqueurs de but dans une équipe. Ramos en étant aujourd'hui. Est-ce que c'est un joueur de top niveau européen? On l'a vu la saison dernière, on a vu que c'était un bon attaquant, un très bon attaquant, mais on voit que c'est plutôt du chapeau 2 européen. Donc aujourd'hui, on ne le découvre pas. Il est encore jeune, il a 22 ans, bien sûr, il a tout le temps de progresser. Mais je pense que, bien sûr, je pense qu'il manque juste de la qualité un peu plus globale dans cette équipe. Et moi, j'entends, et je suis assez d'accord avec Saïd quand il parle d'expérience, mais je le répète, est-ce que c'est ça qui fait le fait que le Paris Saint-Germain ait 60 tirs et marque seulement un but, qui marquait que 3 buts depuis le début de la saison en Ligue des Champions, qui est aucun attaquant qui a marqué sur les 7 derniers matchs.
Si vous écoutez, un problème d'expérience, pas... de qualité globale, de
honnêtement, je vais dire, et pourtant je suis assez sévère avec cette équipe, j'ai envie presque de rejoindre un peu la théorie de Luis Enrique, c'est qu'il faut insister, parce que moi je veux bien qu'il y ait tous les problèmes du monde au PSG, et on pointe assez régulièrement. Mais... À un moment, j'ai envie de te dire qu'un Barcola, il a marqué 10 buts cette saison.
On va l'écouter, Barcola. Il était en conf aujourd'hui, cet après-midi, Jonathan. Et il est revenu sur cette forme de disette, cette période un petit peu compliquée. Bah, là encore, il n'y a pas vraiment d'explication. Bradley Barcola, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on ne l'a pas encore? On va l'avoir d'ici quelques secondes. Bradley Barcola, on attend... Il arrive, juste Bradley Barcola, sur ces derniers matchs, c'est un peu comme Gonzalo Ramos, il faut être indulgent, on peut pas tout demander d'un garçon.
Non, mais il te manque un facteur X. Il te manque un facteur X en attaque. Il te manque ce mec, effectivement, qui, quand ça va pas, tu sais très bien qu'il va te faire la différence à un moment. Tu as eu ça avec Zlatan, tu as eu ça avec Neymar, tu as eu ça avec Mbappé, tu as eu ça même avec Cavani lorsqu'il était en 2016 tout seul. Il te manque ce joueur-là aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et quand tu n'as pas ce petit facteur X, bah, tu vois que dans les grandes équipes, tu en as besoin. Regarde Liverpool, ils ont Mohamed Salah aujourd'hui. Ouais. Bah, quand ça va pas, il est là. Et c'est pas un hasard si Manchester City, ça va un petit peu moins bien aujourd'hui. Bah, parce que t'as Rodri qui était quand même ce patron milieu de terrain, t'avais Kevin De Bruyne qui était ce patron, ce facteur X qui, par une passe, un dribble, arrivait à créer des différences. Bah, quand t'as moins de talent, quand t'as moins ça, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué de gagner certains matchs. Donc, et je pense qu'à Paris, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est un facteur X, que ce soit en attaque ou au milieu, enfin en tout cas ce joueur qui, par un dribble, par une passe, par une frappe, par un but, arrive à te débloquer des matchs et derrière ça déroule, quoi.
Bradley Barcola, il est là sur le manque d'efficacité actuel et la disette offensive, et je viens de voir après Saïd.
Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, je pense qu'il faut régénérer de la confiance, voilà, de refaire ce que je faisais en début de saison sans me poser de questions. Je sais que j'ai plus de responsabilités, donc je vais tout mettre en œuvre pour marquer demain, pour faire marquer et pour surtout faire un grand match.
Ton verdict ou ton diagnostic sur Bradley Barcola, Saïd?
Je rejoins Jonathan. Bradley Barcola, c'est un joueur encore qui est en formation, qui a montré des super choses, mais il faut le laisser progresser tranquillement, à l'aise. Tout à l'heure, tu parlais de facteur X. Il y a quelques semaines, Julien, je ne sais pas si tu me souviens, tu m'avais demandé si Dembélé était le facteur X du PSG. Je t'avais dit, Dembélé ne peut pas être le facteur X du PSG. C'est peut-être le facteur Y, le facteur Z. C'est un lieutenant, mais ce n'est pas lui.
On en attend
facteur...
plus d'Ousmane Dembélé qu'aujourd'hui, je pense, de Bradley Barcola.
On est un peu naïf quand même d'attendre plus d'Ousmane Dembélé, parce que Dembélé, on le connaît. Il a fait 5 ans au Barça, ça n'a jamais été un serial buteur. C'est quelqu'un qui a des qualités vraiment indéniable, qui est capable de déstabiliser des défenses, qui est imprévisible, etc. Mais il faut l'utiliser dans son profil. On peut pas lui demander du jour au lendemain de mettre 20 buts. Je sais même pas si dans sa carrière il a déjà dépassé les 15 buts une seule saison. Donc au PSG, il manque donc des facteurs X, notamment sur le point offensif, mais pas que. Et surtout, et Jonathan l'a souligné, il y a un problème de concurrence. Ouais. Demain, Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé se blesse. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on met?
Demain, Ousmane Dembélé suspendu. On va en parler. Juste Bradley Barcola. J'ai l'impression que voilà, on est indulgent. On a envie d'être indulgent avec Bradley Barcola. Manque de concurrence, émoussé physiquement,
digérer un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais comment veux-tu être exigeant avec Bradley Barcola? Et c'est comme avec Warren Zaïre-Emery en soi. Mm. En fait, aujourd'hui, ils sont au niveau des attentes qu'on peut avoir et tout simplement de leur âge aussi. Et que, bon, bah, on ne parle pas d'un Lamine Yamal, on ne parle pas de ce genre de phénomène.
Lamine Yamal, il n'y en a pas beaucoup. En vérité, Barcola et Warren Zaïre-Emery, ils sont dans les temps de passage.
Exactement.
Pour conclure cette première, c'est une anomalie de leur donner autant de responsabilités. Autant de temps de jeu.
Moi, je vais te dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais ça, c'est un débat qui est plus profond, qui mériterait 45 minutes, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le jeunisme dans le football et les joueurs comme Mbappé, Haaland ou Lamine Yamal, ça a complètement matrixé des équipes en pensant que parce que t'es jeune, tu peux être au niveau de ces mecs-là. Mais ces mecs-là sont des phénomènes et des anomalies dans le football. Aujourd'hui, un Barcola, quand il a 21 ou 22 ans, il est effectivement dans ses temps de passage, déjà 10 buts en Ligue 1, essayer de s'imposer, mais s'il a un coup de mou, c'est normal. Un Zaïre Emery qui a 18 ans, qui a encore 2 ans joué à la USIC, c'est normal qu'il n'arrive pas à s'imposer et devenir un des meilleurs milieux du monde. Et dans 4 ans, 5 ans, ce sont sûrement des autres joueurs. Mais parce qu'ils ont pris de l'expérience. Donc aujourd'hui, tout se reposer là-dessus et se dire que c'est eux qui vont pouvoir faire retourner une situation, pouvoir être des leaders d'une équipe qui essaie d'être ambitieuse en Ligue des Champions, aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas. Et c'est Bradley, normal, ça n'a jamais marché.
Et Bradley Barcola sera titulaire demain, comme tous les matchs en Ligue des Champions. Quel joueur pour l'accompagner en l'absence d'Ousmane Dembélé? On en parle juste après la pub. Avec les clés de ce Salzbourg PSG, à tout de suite. De retour dans Cop Paris, toujours avec mes deux chroniqueurs, Jonathan Ben Saoud et Saïd Hamda. Et on a le plaisir d'accueillir un ancien joueur du Paris Saint-Germain. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Yann Lachuer, ancien joueur de l'AJA et du PSG. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
T'es le parfait trait d'union concernant le match de vendredi soir, puisque tu as porté le maillot des deux clubs entre l'AJA et le PSG. Un petit peu plus longtemps, on va avoir ton CV concernant l'AJA, club avec lequel tu as remporté plusieurs titres, deux Coupes de France notamment. On va revenir brièvement sur ce match AJA-PSG. Déjà, est-ce que ton cœur penchait balancé d'un côté plus que de l'autre vendredi, Yann? J'imagine que oui.
Oui, forcément, en ayant passé plusieurs saisons à Auxerre, j'avais plus la fibre sarroise. Mais après, quand le PSG joue bien et gagne, je suis aussi content.
Quel regard t'as porté justement sur ce match, avec le match héroïque d'un côté de Donovan Léon et la maladresse ou le manque d'efficacité des Parisiens?
Bon, après, dans le contenu, je pense que Paris a fait, sauf la première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, a fait ce qu'il fallait. Si le meilleur joueur d'Auxerre, c'est le gardien, c'est que Paris s'est montré dangereux. Alors après, on parle d'efficacité. Oui, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans le football. Mais pour moi, en tant qu'observateur et aussi avec un œil de coach, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir un contenu et avoir des occasions. C'est ce que je disais moi à mes garçons, c'est que tant qu'on se crée des occasions, à un moment donné là, ça va tourner et l'efficacité va arriver.
C'est exactement ce que disait Luis Enrique aujourd'hui, tant qu'on a des occasions, et moi je veux qu'on en ait encore plus, quitte à ne pas les convertir, c'est qu'on est sur le bon chemin. Petite parenthèse rapidement Yann, t'es resté un an au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure dans une saison qui, dans mes souvenirs, avait été assez compliquée avec des changements de coach?
Ouais, tout à fait. Ouais. Je sortais d'un club plutôt stable avec la JOCR et je me suis retrouvé un peu dans la machine à laver avec trois présidents, parce que moi j'en dis trois, parce que j'avais signé sous l'ère Michel Denisot. Après, il y a Charles Bietri qui est arrivé et M. Perper qui a fini. Et pareil, trois entraîneurs. Donc c'était assez compliqué pour retrouver de la stabilité, un effectif qui avait complètement changé.
Et avec une drôle de concurrence, je crois, puisque c'est ton concurrent presque direct, c'était un certain Djadio Okocha.
Oui, plus ou moins, ouais, mais je pense qu'on pouvait être complémentaires. Mais je pense qu'il y avait un nouveau cycle. On avait annoncé des objectifs pour le titre. Et tout ça. Je pense que l'équipe n'était pas composée pour lutter convenablement. Mais ça m'a permis d'avoir une expérience du très haut niveau et voilà, je n'en garde que des bons souvenirs.
On va se plonger, Yann, dans ce Salzbourg PSG qui nous attend demain, J-1, avant ce rendez-vous capital pour le PSG. Alors, pression maximale, on va revoir le classement. Le PSG est 25e, virtuellement éliminé pour l'instant de la compétition. Et jouera demain, messieurs, Jonathan Saïd, face à un adversaire qui n'est pas loin d'être à la dérive. Hein, 5e seulement du championnat autrichien. Ça paraît presque impossible de ne pas le gagner, ce match.
Je sais pas. Honnêtement, ce PSG est tellement imprévisible que, évidemment, je suis 100% d'accord avec toi. C'est inimaginable de perdre demain. Ouais. Honnêtement, enfin, ils sont pris 4-0 par Brest.
Oui.
Non, mais enfin, ils ont perdu contre Dynamo Zagreb.
Une victoire en 5 matchs.
Ils sont à 11 points de retard sur ce tournoi.
Ils ont l'habitude de dominer le championnat autrichien qui est 5e cette année.
Et contre nous, ça va devenir le Barça Prime. Ah, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est le fait.
Je peux pas y croire.
Mais en vrai, la défaite est inimaginable, inconcevable parce que, on va le dire très clairement, si Paris perd ce mardi,
c'est terminé.
Ouais. C'est terminé. Après, il te reste City et Stuttgart. Même les 6 points, je ne sais même pas si ce sera mathématiquement suffisant parce que ça dépendra aussi des autres résultats de la journée. La victoire, elle est impérative. Si tu n'es pas capable de prendre 3 points face à Salzbourg, tu n'as rien à faire en 8e de finale de Champions League.
Non, même
en 16e.
Champions League tout court.
Oui.
Moi, je dis honnêtement, si Paris n'arrive pas à prendre 3 points contre le RB Salzbourg, moi, je prends tous les joueurs du PSG, vous rendez les crampons et on termine la Ligue. Enfin, il n'y a même plus à finir la Ligue des Champions, ça ne sert à rien.
Il faut déjà se concentrer sur la saison suivante.
Ouais, hein, voilà.
J'aimerais avoir ton regard sur le parcours jusque-là du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une seule victoire en 5 matchs, ce qui a déjà une sorte de déclassement du PSG cette année dans la compétition.
Bon, je pense que le classement, il y est depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait des stars que le PSG était en phase de... ou avait le potentiel pour gagner la Ligue des Champions. Moi, depuis le départ de Zlatan, je pense que le PSG est en déclassement. Alors après, on s'est voilé à la face avec des noms. Et voilà. Mais une équipe, ce n'est pas que des noms. C'est de la stabilité, de la progression chaque année. C'est de la persévérance. Et je pense que voilà, le PSG... pour moi est en régression, en déclassement depuis plusieurs saisons. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le match de demain, effectivement, s'il n'y a pas victoire, il n'y aura pas de suite et ce sera une logique par rapport à leur parcours depuis le début de saison en Ligue des Champions.
Alors, avec quelle équipe, justement, demain soir à Salzbourg? Une certitude, le PSG devra se passer d'Ousmane Dembélé, qui est suspendu. Déjà, le poids de cette absence, messieurs, et qui pour le remplacer, tout simplement, Saïd?
Ousmane Dembélé, c'est quand même une très grosse absence au vu de l'effectif parisien. On a besoin d'Ousmane Dembélé pour créer des décalages. Moi, un remplaçant que je vois potentiel et qui peut paraître surprenant au premier abord, c'est Achraf Hakimi. J'ai posé la question à Luis Enrique qui a ironisé sur le fait qu'Hakimi devrait être avec le COP parisien s'il devait être plus haut.
Ouais.
Mais aujourd'hui, la question se pose vraiment d'utiliser Hakimi en poste d'ailier.
Du coup, tu mets qui à latéral droit? Warren?
Tu mets Warren. Normalement, face à Salzbourg, tu ne devrais pas trop galérer. Tu devrais avoir la possession du ballon. Et là, avec Hakimi aujourd'hui, c'est le top du top. Hakimi, c'est le meilleur défenseur du PSG. Mais c'est aussi le meilleur attaquant du PSG. C'est aussi même, accessoirement, le meilleur milieu du PSG parce qu'il est absolument partout. Il a un cardio, il est infatigable. On dirait Hicham El Guerrouj pour les puristes des Jeux Olympiques. Et quand on regarde vraiment ses statistiques, c'est le meilleur latéral droit d'Europe. Même Luis Enrique a dit que c'était le meilleur latéral droit.
Ça se tente, mais est-ce que ça ne serait pas un aveu d'échec de mettre ton latéral droit et lié droit? T'as l'air dubitatif, en tous les cas, Jonathan.
Non, mais ça montre à quel point il y a des problèmes dans cet effectif. T'as mis 800 millions d'euros pour finalement, en fait, que ton arrière droit soit un attaquant.
Ouais.
Enfin, ça montre quand même qu'il y a un problème quelque part. Et le pire, c'est que Saïd, il n'a pas tort. C'est qu'aujourd'hui, c'est ton meilleur. Luis Enrique, parfois, le conçoit en conférence de presse, c'est ton meilleur offensif.
Ouais. Il a dit même que c'était le meilleur latéral droit qu'il avait jamais entraîné, sachant qu'il a entraîné quand même Carvajal, Dani Alves. Et juste pour terminer sur ça, c'est que offensivement, quand on regarde son apport en termes de qualité de dribble, en termes de positionnement, appel dans le dos de la défense, en termes de passes dangereuses et intelligentes, il est absolument top à tous les niveaux. Donc malheureusement, aujourd'hui, la solution la plus pertinente à mes yeux, si quelqu'un a une meilleure solution, je suis prêt à l'écouter.
Non, il y en a d'autres.
C'est quand même Hakimi.
Il y en a une qu'on peut exclure d'emblée. Je pense que c'est Randal Kolo Muani. A priori, Jonathan.
Bah oui, de toute façon, il a jamais été dans les plans. Donc.
Et en plus, manque de confiance, en vrai. Voilà.
Désiré Doué, non. On a vu Arsenal. C'est pas son poste.
Et trop tendre encore.
Pellegrini, ça paraît être la solution la plus logique, pertinente.
C'est la plus évidente, j'ai envie de dire.
Évidente,
voilà. Oui, mais c'est sécurité pas du pied.
Oui, voilà ça. Bah après, tu joues Salzbourg, quoi. Enfin, je suis désolé.
Ça coûte quoi de tester Hakimi à ce poste-là?
Honnêtement, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire, je pense que même l'équipe type, normalement, devrait suffire, mais avec Ikanguine à droite, pour battre le RB Salzbourg. Enfin, là, si, enfin, il faut se rendre compte quand même de la gravité de la situation.
Bon, la logique, c'est Kanguini. Le coup de poker, ça serait Fakimi. Juste, petite interrogation, parce que j'ai l'impression que pour tout le monde, demain, ça sera Didio Donnarumma dans les buts. Donnarumma ou Safonov? Enfin, s'il y a encore une logique.
Il n'y a plus de logique. Donc ouais. Ça peut être tenace même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'ai envie de reprendre un grand sketch de Jamel Debbouze quand il disait Maroc-Algérie. Là, c'est pareil. Donnarumma, Safonov, ne serait-ce pas là deux gardiens de...
Oui, on ne dit pas la souris.
Je ne dis pas, évidemment. Je donne la référence ouais. pour les plus anciens. Ouais. Mais au-delà de ça, et je n'ai pas du tout envie de manquer de respect à ces deux gardiens-là, mais les deux ont des lacunes différentes. Pour moi, et je l'ai toujours dit dans cette émission, Donnarumma a des énormes problèmes de concentration, ce qui fait qu'aussi, pour son équipe, il ne dégage rien de rassurant. Et Safonov, bon bah Safonov, l'année dernière, il était deuxième du championnat de Russie avec Krasnodar. Aujourd'hui, il se retrouve à jouer en Ligue des Champions. Il n'était pas prêt pour
il
ça.
Il se retrouve parachuté contre le Bayern. Il ne fait pas un mauvais match, mais il passe
en plus,
à travers.
Il est pas dégueulasse.
Je vais retourner voir Yann Lachueur, de ton expérience d'ancien joueur, Yann, mais aussi d'entraîneur. Tu penses quoi de la concurrence entre gardiens?
Moi, je pense que j'ai vécu ça aussi. J'avais mis deux gardiens sur le même niveau, et les deux gardiens, quand ils jouaient, ils se mettaient la pression, et donc du coup, ils ont jamais été performants.
Ouais.
Moi, je pense que c'est un rôle particulier. Je pense qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie qui soit claire dès le début, un numéro, un suppléant. Voilà, ce qui ne veut pas dire que le suppléant, il n'est pas là pour titiller le numéro. Mais je pense que à ce poste-là, il y a besoin d'avoir de la sérénité, de la confiance. Et donc voilà, il faut qu'il y ait une hiérarchie claire et nette dès le départ.
C'est comme ça qu'on a tué Kaylor Navas.
Est-ce qu'il s'est raté? Oui, on peut revenir, mais enfin, il y a plein d'épisodes sur les gardiens.
Mais en vrai, avant, quand même, le déclassement, avant, on alternait entre Kaylor Navas et Donnarumma. Mmh. Aujourd'hui, on alterne entre Donnarumma et Safonov. Demain, on va alterner entre.
Bon, c'est pas nouveau, mais si on focalise sur Luis Enrique, est-ce qu'il s'est raté sur le timing de la décision de lancer Safonov dans un grand match à Munich? Parce qu'on a beaucoup entendu, il a tué les deux.
Honnêtement, non. Enfin, moi, encore une fois, j'étais pour Safonov contre Munich. Je suis pour rien, honnêtement. En fait, encore une fois,
moi, je suis pour Safonov. Voilà, je me mouille, je suis pour Safonov demain.
C'est bonnet blanc, blanc bonnet.
Pour moi, le choix aberrant, c'est de faire partir Navas.
Il était au top.
Top gardien, voilà. Et pourquoi se priver de Navas?
Parce que tu avais ce qu'on appelle, Yann, je pense, une opportunité de marché.
Oui,
c'est ça. C'est Donnarumma qui vient de remporter l'Euro.
Mais aujourd'hui, il faut se poser la vraie question. Parce que est-ce que le vrai débat, c'est Donnarumma-Safonov? Est-ce que le vrai débat, il ne réside pas dans le recrutement? Parce que le recrutement des gardiens, on sait que Donnarumma, il était un petit peu friable. Et nous, au lieu de chercher un gardien fiable, il y en a en Europe, Dieu sait qu'il y en a. On a fait quoi? On a pris la roue de la fortune. On a tourné un petit peu au hasard et c'est tombé sur Safonov, Krasnodar.
Oui,
mais on a fait ça quand même sur pas mal de joueurs,
pour
malheureusement.
Fermer, ce chapitre Salzbourg-PSG, est-ce que c'est pas aussi un petit peu le match? Bon, c'est le match de tout le monde, mais Luis Enrique, demain, on entend qu'il a mis de l'eau dans son vin. Est-ce que demain, voilà, il doit trouver la bonne formule et être un petit peu moins rigide?
C'est Salzbourg. Enfin, encore une fois, je suis désolé. Hein. Contre le Bayern, j'aurais entendu ce genre de débat.
Il y a une sorte de détresse sur ce plateau quand même.
Mais non, mais c'est
on a joué
Salzbourg.
Girone, on a joué le PSV en début de saison.
C'est encore pire. Ouais. Non, mais c'est pire.
C'est vrai que Salzbourg, c'est quand même en dessous.
Non, Salzbourg,
c'est quand même en dessous.
Quand même, c'est cinquième du championnat autrichien. Ça devrait, franchement, et c'est ça qui est. Ça devrait durer vraiment dans ce débat de ce soir, 5 minutes ce match.
En fait,
mais vraiment. Et là, le.
Mais c'est ça.
Et c'est ça le problème.
Ce débat-là, il y a 5 ans, c'était un péché d'en parler. Parce que ce débat-là n'existait pas du tout. En fait, les matchs contre Salzbourg, Slavia Prague, etc., tout ce genre d'équipes qui sont talentueuses, mais qui sont quand même très loin du niveau du PSG, c'était des formalités. Aujourd'hui, on se pose la question de potentiellement, est-ce qu'on va pas encore faire un couac et tout? C'est quand même grave.
Puis honnêtement, je suis désolé, mais est-ce que tu as vraiment besoin de te poser le débat sur Safonov ou Donnarumma, est-ce qu'il serait au niveau pour un match pareil? Enfin, et c'est dire à quel point aujourd'hui ils sont pas au rendez-vous, ces joueurs-là.
Dans quel état on va retrouver ces gardiens-là demain, sur la pression,
exactement.
Sur le mental?
Et le fond du débat, il est là. C'est pas que nous, on se pose la question. C'est légitime de se poser la question, vu l'état et psychologique et tout simplement le niveau des joueurs. Et le problème, il est de fond, quoi. C'est pas de forme.
J'ai envie de poser une question à Yann, alors plus sur les gardiens, mais sur Luis Enrique. La méthode Luis Enrique, du point de vue du jeu, toi, l'ancien numéro 10, ça te plaît peut-être? Du management, qu'est-ce que tu penses de Luis Enrique?
Alors moi, en tant que numéro 10, j'avais besoin d'un avant-centre. Pour moi, voilà. Alors après, Luis Enrique, il a ses idées, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut que le recrutement, il soit en cohérence avec ses idées. Et là, on parlait des gardiens. Bah, les gardiens, ils ont des pieds palmés, donc ça ne correspond pas à Luis Enrique. Il y a eu deux numéros 9 avec Kolo Muani, Ramos acheté à 180 millions. Oui. Luis Enrique, il veut jouer sans numéro 9. Donc c'est là le bas qui blesse au PSG, c'est que vous prenez un coach. Mais il n'a pas les éléments pour faire jouer son équipe comme il le souhaite. Alors après, est-ce que c'est la bonne solution, pas la bonne solution? Est-ce qu'elle est psychorigide, pas rigide? J'en sais rien, mais pour l'instant, pour moi, il y a vraiment un paradoxe entre le recrutement et les idées du football de Luis Enrique. Ouais, je pense que c'est ça la clé en fait, de la réussite du PSG, c'est qu'ils arrivent à trouver un coach avec un recrutement qui soit en adéquation avec ses idées.
On va regarder le résultat du sondage, les amis, pour voir si on a bien fait de parler une demi-heure de ce Salzbourg-PSG. Pronostic demain, bah vous voyez qu'il y a 51% qui voient une victoire et le reste quasiment 50-50 qui s'imaginent demain match nul ou défaite.
Non mais c'est dingue quand même.
Ouais, ça transpire pas l'optimisme, mais il y a quand même une certaine idée du déclassement là.
Non mais c'est dingue.
Alors pronostic pour demain, Joe.
Bah j'espère victoire. Ouais. Enfin, je peux pas imaginer.
Large avec des buts.
Victoire. Juste 3 points. Donnez-moi 3 points.
Honnêtement, je dis 3-0 Paris Saint-Germain. Je me mouille peut-être et peut-être que demain j'aurai l'air d'être l'idiot du village ultime quand on n'aura peut-être pas gagné ou fait match nul. Mais 3-0 me semble être le minimum syndical.
Ouais. Yann, avant de nous quitter, un petit pronostic pour ce Salzbourg PSG. Est-ce que le PSG va passer la phase de poule? Je vais même plus loin.
je l'espère, mais. Demain, je vois une victoire. De toute façon, ils n'ont pas de choix. Ouais. Là, ils sont au pied du mur. Faut qu'ils prennent les 3 points pour pouvoir espérer après jouer le prochain tour. Mais pour moi, voilà, entre 3 et 4-0, je pense qu'il n'y aura pas photo demain. En tout cas, j'espère.
Yann Lachuer était avec nous ce soir dans Cop Paris. Un immense merci, Yann.
Merci à vous.
Très bonne soirée à toi, bonne continuation, à très vite dans Cop Paris. Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants pour débriefer la grande interview de Kylian Mbappé. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporters, Saïd Hamda, journaliste sportif. Alors je pense savoir peut-être ce que vous faisiez hier aux alentours de 19h30, peut-être à contre-cœur, Joe.
Ah non, moi j'étais en plein tournoi de paddle.
D'accord, donc tu étais au paddle, tu n'étais pas devant l'interview de Kylian Mbappé dans Clic chez nos confrères de Canal+, pour la grande interview, vérité, confession de Kylian Mbappé, sa première prise de parole depuis son départ du PSG. Première réaction spontanée, messieurs, sur... voilà. Sans forcément parler tout de suite du PSG, est-ce que c'était nécessaire, courageux, éclairant, rien de tout ça?
C'était une interview d'un joueur qui, je pense, avait besoin de parler, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses autour de lui et qui devait, en tout cas, il se devait de parler, c'est sûr.
Mm-hmm. Ouais, non, il n'y a rien de courageux parce qu'il a choisi son média, son format. Il avait des choses à dire parce que, comme il l'a dit, beaucoup de gens ont parlé à sa place. Et c'est bien aussi qu'ils prennent la parole. Après, est-ce que c'était le bon timing? Je sais pas, parce que sportivement, ça roule pas forcément pour lui. Il y a aussi les affaires judiciaires, même s'il est présumé innocent, évidemment. Bon, il y a un contexte qui fait que je sais pas si c'est le très très bon timing pour lui de s'exprimer. Je pense qu'il y a d'autres manières. Mais à mon avis, il y a aussi un ras-le-bol de la part de Kylian Mbappé, où la coupe, elle est un peu pleine. En équipe de France, ça va pas trop. Au Real, il s'acclimate pas comme il voudrait. Les histoires avec le PSG judiciaire qui traînent, etc.
Ouais, y a beaucoup de
choses. Bon, je pense qu'à un moment, il en avait gros sur la patate et il a choisi un format assez libre, parce que Mouloud Achour donne la parole. Et il s'est exprimé, il a dit ce qu'il avait à dire.
Il y a eu 2 heures d'interview au total, ils en ont retenu coupé environ 1 heure. On attendait forcément beaucoup la partie réservée au PSG. Il en a beaucoup parlé, hein, comme tous les autres sujets. Il est revenu tout d'abord sur sa relation avec les supporters, concédant qu'il y avait eu des ratés. On l'écoute.
Avec les supporters, c'est vrai que j'aurais pu être plus expressif. Des fois, quand j'ai eu des réactions, au final, tu mets le club en porte-à-faux, tu mets les supporters en porte-à-faux, mais eux ne savent pas tout ce qui se passe. Donc eux, ils le prennent pour eux.
C'est un vrai mea culpa, ça. C'est un mea culpa à moitié pour les supporters.
Je vois même. Enfin, il y a pas de mea culpa. En fait, en soi, je pense qu'il a. Honnêtement, hein, vraiment, pour le coup, je ne souhaite aucun mal à Kylian Mbappé. Au contraire, qui réalise son rêve, comme il l'a dit plein de fois, c'est très bien. Je pense qu'il a rien compris à l'exaspération des supporters. Je ne pense pas que ce soit l'histoire de...
d'extériorisation.
Honnêtement, beaucoup de supporters sont extrêmement attachés à Zlatan Ibrahimovic. Pourtant, ce n'était pas vraiment le joueur qui donnait beaucoup aux supporters. Pourquoi est-ce qu'ils attachaient Ibrahimovic? Parce que c'était quelqu'un qui se donnait à fond sous le maillot du PSG, qui ne trichait pas, qui ne mentait pas, et qui se donnait à fond et qui prouvait par son professionnalisme, et surtout, qui était bon sur le terrain. Kylian Mbappé, la saison dernière, pourquoi les supporters aussi l'ont voulu, pardon de le dire, il était nul. Alors, il était nul sur la deuxième partie de saison.
Il y a les histoires contractuelles, je vois Saïd réagir dans son coin.
Je comprends ce qu'il veut dire sur Zlatan Ibrahimovic, mais il faut reprendre aussi le contexte. Ibrahimovic, il arrive, il a plus de 30 ans au PSG, c'est un joueur d'expérience, il a tout vu, il a tout connu. Là, Kylian, je pense, et c'est ce qu'il a dit dans l'interview, et à mon avis, c'est quand même un constat lucide, mais c'est un constat lucide qui arrive assez tard, mais il a tout mélangé. En fait, c'est différent avec la direction du PSG. Malheureusement, les supporters ont été des victimes collatérales, c'est-à-dire que sur le terrain, pour exprimer son mécontentement avec le PSG, c'est « tu me donnes pas d'amour, bah, je me tue pas à la tâche ». Pour lui, exprimer son amour envers les supporters, c'était un peu faire plaisir au club. Alors, et lui, il ne voulait pas faire plaisir au club.
Je pense qu'il mélange un peu des choses aussi dans l'interview.
Et je pense qu'il a mélangé pas mal de choses.
Les supporters pensent aussi au fait qu'ils partent libres. Ça, c'est une chose. Et puis aux différents financiers.
Honnêtement, si Kylian Mbappé avait flanqué un doublé contre le Borussia Dortmund et aurait qualifié le PSG en finale.
Le entre guillemets, bien sûr. Des amours.
Je te répète encore une fois.
Ah, c'est ça, Mbappé, si par la grande porte, évidemment.
Voilà, si Mbappé il met un doublé contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, je t'assure que les supporters aujourd'hui, ils se diraient.
Ça dépend de sa finale. Bon vent.
Évidemment, mais s'il avait été décisif dans les matchs importants, je t'assure que les supporters auraient retenu.
En fait,
le problème, c'est qu'il n'a pas été, il a été souvent absent des grands rendez-vous. Alors effectivement, on peut retenir son match contre le Bayern Munich en 2021 ou contre le Barça. Bah ok, mais après il y a aussi le match aller contre le Real Madrid. Mais sinon, c'était quoi? C'est la glissade de United, c'est le Final 8 où il est blessé, c'est les deux dernières saisons où il est pas bon. 2022 après sa Coupe du Monde, il est pas bon. Et sa saison 2023, elle est pas bonne. Sa saison.
Ça, il en a pas parlé.
Ça a été coupé. Donc, en fait, c'est plus facile.
En fait, dans la vie, c'est comme en entreprise, en club, etc. La première impression est hyper importante et il faut aussi soigner sa sortie. Et lui, sa sortie, il l'a pas soignée parce que il n'a pas donné. Sur la dernière année, parce qu'il a fait quand même de grandes choses au PSG, il ne faut pas lui retirer, il ne faut vraiment pas être amnésique. Mais sur la dernière année, il n'a pas donné sur le terrain et il n'a pas assez donné hors terrain. C'est-à-dire que même sur le terrain, voilà, il était essoré, il a parlé des problèmes de fatigue. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qu'on a ultra utilisé.
Justement sur la fin, le divorce compliqué, sur le bras de fer, il a un petit peu fait, moi je trouve, comme s'il y avait eu aucun problème ou qu'il n'y en avait plus, en expliquant notamment, on l'écoute, qu'avec l'émir, tout allait bien.
Elles ont toujours été au top avec lui, il n'y a jamais eu de quelconque problème. Pour ça, quand les gens disent « oui, c'est Kylian contre le Qatar », j'avais des conflits avec des gens, mais des conflits qui étaient naturels, parce que je défendais mes droits, je défendais mes droits d'homme, de joueur.
Bon, il y a des conflits, pas avec l'émir, bon, a priori on parle du président. On reste un petit peu, je trouve, sur notre fin, sur cet aspect-là, sur la manière dont tu as...
Parce que c'est une histoire en cours, et donc du coup, tout ce qu'il peut dire peut être retourné contre lui. Ouais. Donc il a brassé, voilà, il a survolé le sujet. Pour moi, c'est une énorme erreur de la part de Kylian Mbappé de réclamer 55 millions d'euros PSG. Autant il réclame ses salaires, bon, c'est normal. Mais sur les primes, il avait promis... Et ça, il l'a fait publiquement. Il avait dit déjà, qu'il ne partirait pas gratuit. Mais bon, voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais au-delà de ça, c'est sur les primes, donne ce cadeau-là au PSG parce que tu as dit que tu voulais que le PSG soit, s'en sorte et que tout le monde soit content. Tu as signé au Real Madrid, Kylian Mbappé, avec tout l'argent.
Est-ce qu'il ne fait pas payer le Paris Saint-Germain de tout ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, on va y venir également avec son frère.
Mais c'est une erreur. C'est juste ça, sur ça.
Jonathan, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus parler.
Non, mais alors, on ne va pas aller après avec du frère.
C'est une erreur énorme de communication parce qu'il a pris tellement, il a amassé tellement d'argent au Paris Saint-Germain que ces 55 millions-là, juste pour l'image, il aurait dû les abandonner.
Est-ce que c'est encore nocif d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès, bon, alors financièrement parlant, je ne sais pas si c'est une question de vie ou de mort pour le Paris Saint-Germain, mais du fait que le PSG n'a pas encore définitivement tourné la page avec Kylian Mbappé.
Je pense pas. Honnêtement, je pense que, à part effectivement quand il y a les rendez-vous judiciaires, honnêtement, je pense que c'est plus dans le quotidien du PSG Kylian Mbappé. Et encore heureux, heureusement qu'ils ont tourné la page. Non, mais moi en fait, Kylian Mbappé, je fais un peu un parallèle avec Didier Deschamps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où. Bah, qui te donne pas beaucoup d'émotions, effectivement, en dehors du terrain, il le dit, il le conçoit, etc. Et donc, à côté de ça, bah, quand tu donnes pas d'émotions, t'es obligé de t'en tenir aux résultats. Et quand les résultats sont pas en rendez-vous et que tu donnes pas d'émotions, bah, derrière, on te tombe dessus. Et à un moment, eh ben, on récolte ce que l'on sème. Aujourd'hui, aujourd'hui, il sème tout ce qu'il a fait, en tout cas, depuis deux ans, où nous, on répétait, en tout cas, parce qu'on voyait tous les matchs et que tout le monde disait ben, « vous exagérez, vous comprenez pas, vous êtes toujours le PSG, machin, etc. » Ok, les gens le voient maintenant en Mondiovision.
Hein, je voulais t'en parler, je veux juste qu'on l'écoute, ce dernier passage sur le petit frère Ethan, qui par ricochet aurait lui aussi subi un traitement injuste de la part du PSG, à tel point que Kylian aurait pu prolonger.
À un moment donné, même, je lui ai dit, si vraiment ça te pèse, je prolonge encore et tu restes, on reste ici. Tu vois, si vraiment ça te pèse trop, il m'a dit non, jamais de la vie, je veux pas rester ici. S'il m'avait dit, Kylian et tout, vraiment, ça me pèse, hein, j'aurais abandonné mon rêve de Madrid, je serais resté.
C'est quoi ce passage? C'est fort, c'est toujours, ça te fait sourire?
La communication, je pense que même si ça pouvait peser tout le poids, toute la misère du monde sur Ethan, il ne serait pas resté parce que son ego fait que tout ce qui s'est passé, il y a eu une fracture et c'était fini. Mmh. Donc bon, là, à mon avis, bon, voilà, j'ai pas envie de douter de son intégrité, mais bon, là...
Non mais l'amour, l'engagement pour le petit frère, on va pas remettre ça en cause, mais Kylian Mbappé n'aurait jamais prolongé au Paris Saint-Germain.
Alors j'aimerais poser la question, c'était quoi la première partie là, du débat qu'on vient de faire sur Mbappé? C'est la relation avec les supporters et le fait qu'il se soit trompé dans sa relation. Mm-hmm. D'accord, bah, c'est complètement antinomique, parce que là ce qu'il dit en fait, c'est de dire, et moi je serais resté, pas pour vous, hein, pas pour le club, hein, mais pour le petit, mais bon petit frère que j'aime plus que quiconque, parce que moi sinon mon rêve, c'est le Real Madrid, il le répète plein de fois en plus dans l'interview, c'est le rêve de sa vie, etc. Et ça, les supporters, ils vont le digérer. C'est un bon moyen de communiquer avec les supporters, de rabibocher les choses, de faire un mea culpa.
Allez. Bon, en fait, pour moi, vraiment, son litige avec le PSG, c'est tellement un mauvais calcul, parce qu'il part en laissant une ardoise, il laisse un petit peu un cadeau empoisonné. Et en fait, c'est le dernier souvenir qu'il va laisser aux supporters. Aujourd'hui, avec le fair play financier et tout,
non,
tout
mais
est très compliqué.
Ça va au-delà de ça, c'est la com. Là, je te dis ce qu'il dit là,
quand tu pars,
franchement, c'est grotesque. C'est grotesque ce qu'il dit. L'histoire avec Ethan Mbappé, c'est grotesque. Et je te dis, franchement, c'est pour moi, c'est un doigt d'honneur aux supporters ce qu'il dit. C'est le dernier doigt d'honneur qu'il fait aux supporters. Parce que quand il dit. Quand il dit, je suis fan du Real Madrid pour tout le truc, et là il te dit, tiens, si je reste, c'est seulement pour toi le petit frère, et en fait le club je m'en tape.
Je pense qu'il voulait surtout saucer son petit frère plutôt que dire que le club je m'en tape.
Donc pour attraper son image auprès des supporters, tu fais ça. Ok,
c'est dit. C'est dit.
Non, mais honnêtement,
le temps est compté. On va
Jonathan est énervé là.
Complètement sans transition, on a énervé Jonathan. Le e-sport, c'est avec Raphaël Redon.
Le Stade français a vécu un cauchemar sur la pelouse du Munster. Pour leur entrée en lice dans la Coupe d'Europe, les Parisiens, dont l'effectif avait été largement remanié, ont récolté deux cartons rouges et surtout encaissé cinq essais. Résultat, une défaite 33-7 en Irlande.
On s'est filé en défense, mais on n'est pas assez précis sur pas mal de petits détails, notamment la discipline. Donc c'est vraiment rageant de repartir avec zéro point et avec un score aussi lourd.
A l'inverse, le Racing s'est montré solide sur sa pelouse de Créteil. Les Franciliens ont bien démarré leur campagne européenne avec un succès face aux Harlequins 23-12, porté notamment par les arrières fidjiens Naitouvi, Abossi et Tuisova. Le Racing a maintenant rendez-vous en Angleterre, à Sale, la semaine prochaine. Le Stade français recevra les Saracens à Jean-Bouin. Paris Basket est définitivement inarrêtable. Le club de la capitale a enchaîné une 14e victoire de suite, qui plus est, face au champion en titre Monaco. Dans le choc du championnat, les Parisiens, menés de 19 points au moment du 3e quart-temps, ont pu compter sur un grand Nadir Rifi, auteur de 26 points. En prolongation, les joueurs de la capitale arrachent la victoire 111-104 et confortent leur deuxième place au classement. Rendez-vous maintenant en Euroleague vendredi prochain sur le parquet de l'ASVEL.
Nous aurions pu abandonner, mais nous avons trouvé cette énergie supplémentaire qui nous a permis de nous relancer. C'est une question de confiance en soi et en ses coéquipiers, car je suis intimement persuadé que toutes les personnes dans le vestiaire, joueurs et staff, se donnent actuellement à 100%.
Eux aussi paraissent invincibles. Les Parisiens ont remporté leur 12e victoire en autant de matchs cette saison en championnat. Longtemps accroché à Toulouse, le PSG Handball s'en est sorti en fin de match, grâce notamment au travail de son pivot Kamil Chyprak. Victoire 31-28, idéale avant le choc de dimanche face à son dauphin, le HBC Nantes.
Comme Paris, c'est déjà fini après un débat houleux sur Kylian Mbappé. On n'en reparlera pas toutes les semaines. Premier, merci Jonathan, merci Saïd, je remercie également Jordan Le Sueur à l'édition. Et je vous rappelle que l'émission Comme Paris est disponible en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play et sur le site web de BFM Paris. Très belle semaine à tous. Ciao, ciao.